Vous allez entendre un message de William Branham intitulé « Jéhovah Jireh, partie 2 ». Ce message a été prêché à Louisville, Mississippi, USA, le 3 avril 1964. J'ai quelques passages des Écritures et des notes décrites ici que j'aimerais vous laisser. Mais auparavant, prions de nouveau un moment. Père, nous prions que tu prennes ta parole, car ta parole est la vérité. Et la Bible a dit de la bouche de Jésus que la parole est une semence qu'un semeur a semée. Maintenant, nous réalisons que si une semence est une bonne semence, elle germera. Et si cette semence a été transportée, si elle est plantée dans la volonté de Dieu, alors elle donne une semence qui germe. Et quand Jésus était sur terre, il était ce cep, et la semence qu'il a semée était sa parole, et nous savons qu'elle germe par sa propre vie. Et nous savons qu'une semence, quand elle tombe dans une bonne terre, pas dans les pierres, elle n'aurait pas de racines, pas dans les épines et les chardons, qui bientôt l'étoufferaient, mais dans une bonne foi fertile et riche, toute semence produira selon son espèce. Et nous savons que toute semence ou promesse de Dieu produira selon son espèce, selon la promesse qu'elle contient, si elle tombe dans une bonne terre. La terre qui est préparée, prête. Les pierres en sont toutes été arrachées, les racines, et l'amertume, et l'égoïsme, et l'indifférence, et la jalousie, tout ça a été arraché. Cette racine d'amertume qui se pointe, qui parfois souille, tant ce que Dieu essaye de faire. Nous prions, Dieu, que cela ne se retrouvera pas au milieu de nous, mais que la bonne parole trouvera en eux une bonne terre. Comme nous suivrons ce grand patriarche Abraham dans la leçon de ce soir, puissions-nous trouver notre position, sachant que nous sommes des enfants d'Abraham par la foi en Christ. Et de plus, qu'à ton nom soit la gloire et l'honneur, car nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons revoir quelque peu ce soir ce que l'on a vu hier soir. C'est à partir du 12e chapitre de la Genèse que nous avons vu les débuts d'Abraham. En fait, son nom est mentionné dans le 11e chapitre quand son père est venu de Babylone pour habiter Ur des Chaldéens. Et puis nous voyons aussi que Dieu a appelé Abraham un simple homme du nom d'Abram. Il n'était pas encore appelé Abraham, pas plus que Saraï n'était appelée Sarah. Nous constatons donc que Saraï et Sarah étaient deux noms différents, ainsi que Abram et Abraham. Nous voyons en ceci, hier soir nous l'avons vu obtenir la confirmation, Dieu lui ayant confirmé l'alliance, comment il prouverait à Abraham qu'il tiendrait sa promesse. On peut retrouver cela au 15e chapitre de la Genèse. Et Abraham fut appelé au crépuscule du soir à tuer un veau, ou plutôt une jeune génisse, une chèvre et un bélier. Nous avons vu cela hier soir, ce qui concernait les deux femelles et le mâle, et puis le pigeon et la colombe qui sont de la même famille. On a vu ce que cela représentait, ce qui a toujours représenté la guérison, et ça n'a jamais changé. La guérison s'est toujours effectuée par la foi, mais l'expiation, bien sûr, est passée de la vie d'un animal à la vie d'un humain. Maintenant, dans l'Ancien Testament, quand l'adorateur venait avec le sang, Dieu ne rencontre les individus que sous le sang répandu, le seul lieu qu'il ait jamais pourvu ou qu'il pourvoira jamais. Il ne vous rencontrera jamais sur la base de votre credo, il ne vous rencontrera jamais sur la base de votre instruction, il vous rencontrera sous le sang. C'est le seul lieu. Tout Israël adorait sous le sang. Et nous avons ensuite trouvé, là aussi, quoi donc, dans l'ancienne histoire, comment ils concluaient alors une alliance, comment ils s'y prenaient, notamment ceux de l'Orient, et comment nous concluons de nos jours par une poignée de main, et ainsi de suite, et nous disons, c'est clos. Les Japonais, eux, se lancent mutuellement du sel. Et en voyageant autour du monde, on voit encore beaucoup de ces mêmes coutumes qu'ils avaient en ces temps reculés, particulièrement l'Orient et l'Est. Vous redécouvrirez votre Bible si jamais vous visitez l'Est, Jérusalem, la Palestine. La Bible est écrite, nous sommes un peuple d'origine anglaise essayant de comprendre un livre oriental. C'est très difficile. Si vous y allez, vous verrez que les mariages et le reste se font exactement selon les coutumes qu'ils avaient du temps du Christ. Beaucoup de leurs coutumes et de leurs cérémonies n'ont pas du tout changé. Nous avons vu qu'en ce temps-là, lorsqu'ils concluaient une alliance, ils utilisaient une peau d'agneau, du cuit. Ils tuaient un animal et le partageaient. Ils découpaient la peau en deux, ceci étant leur alliance, leur parole. Ils la découpaient en deux comme cela. Et quand on rassemblait les pièces, celles-ci devaient concorder exactement. Aussi, nous avons vu dans notre leçon d'hier soir ce que Dieu a fait pour prouver à Abraham son alliance. Maintenant, la promesse a été faite à Abraham et à sa semence après lui. Pas seulement à Abraham, mais aussi à sa semence. Maintenant, la semence naturelle d'Abraham était Isaac, mais la semence spirituelle de la foi d'Abraham était Christ. Ce n'est pas par Isaac que le monde entier a été béni, mais c'est par Christ, la semence royale, que le monde entier a été béni, car il est mort pour tous, toutes les nations et tous les peuples. En cette alliance aussi, nous voyons qu'il a montré ce qu'il allait faire, que Dieu allait briser Jésus-Christ, et le corps a été élevé et établi à la droite de Dieu et de la majesté dans les lieux très hauts, et l'Esprit de Christ a été ramené à la terre. Ici, si on avait le temps, on pourrait le prouver. Toute chose, comme le dit un verset des Écritures, va d'un bout à l'autre de la Bible. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une erreur. L'ancien n'est qu'une ombre du nouveau, le préfigurant. Aussi, si vous avez l'ombre, vous pouvez facilement prédire ce qu'est le nouveau. Ainsi, c'est où il était, est, sera. Maintenant, cet esprit de Christ est revenu sur l'Église, accomplissant exactement Jean 15 de nouveau, où il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». De nouveau aussi, Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi ». Les mêmes œuvres, les mêmes choses, partout dans les Écritures. « Si vous demeurez en moi, et ma parole en vous, demandez ce que vous voulez, il vous sera accordé ». Beaucoup de choses que Christ... Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Le monde, du mot grec cosmos, qui signifie l'ordre du monde, ne me verra plus. Cependant, vous me verrez, car je étant un pronom personnel, je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde, faisant de Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il demeure, il est ressuscité des morts. Le monde, l'incroyant, ne me verra plus. Ils ne le reconnaîtront pas, mais le croyant le reconnaîtra, parce qu'il est le même Jésus qu'il a toujours été. Il n'a pas changé, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cette parole, plusieurs essayent de prétendre qu'elle n'est pas inspirée. Et là, je dirais quelque chose là-dessus qui me vient à l'esprit. Et je ne crois pas que la chair est faite pour venir y plaisanter. Ce n'est pas un endroit pour cela. C'est l'endroit où être sincère. Et comme nous voyons le jour du Seigneur approcher, nous devrions être d'autant plus sincères. Mais il y a une histoire qui m'a été racontée d'un jeune homme qui, ça se passait à Boston. Il avait eu avant tout une bonne mère pour commencer l'histoire. Et sa mère savait certainement que son garçon avait un appel dans sa vie pour servir le Seigneur. Et cela aiderait toute mère, devrait aider toute véritable mère de savoir que leur fils... que Dieu les a honorés d'un fils qui prêchera l'Évangile. Cela devrait être un crédit dans la vie de toute mère. Aussi, la pauvre mère, essayant de faire tout ce qu'elle pouvait, l'a envoyé à l'école et à un séminaire afin qu'il reçoive son diplôme. Ainsi, pendant qu'il était au dehors, la mère est tombée sévèrement malade. Aussi, comme tout chrétien le ferait, ils ont appelé le docteur. Elle avait une pneumonie double. Et le docteur tenta l'impossible pour elle, diagnostiqua ses poumons et il n'y avait rien à faire. Il lui avait administré du sulfure et de la pénicilline et ainsi de suite pour tuer le germe et ça n'avait pas aidé. Son état empirait constamment. Ils ont donc envoyé une missive à leur garçon, qui était alors à Asbury, Kentucky, au collège Wilmore, pour qu'il vienne à son chevet, car elle allait mourir. Alors le lendemain matin, tout juste avant son départ, il a reçu un télégramme. « Ta mère se porte beaucoup mieux. Attends de nos prochaines nouvelles. » Environ un an plus tard, la femme a eu le privilège de revoir son fils durant les vacances, sa période de relâche. Et il lui a dit, « Maman, j'ai su que tu avais recouvré la santé. » Après avoir pris un temps à discuter, comme tout fils et sa mère devraient le faire, il lui a dit, « Je n'ai jamais compris quel médicament le docteur a remplacé pour te procurer une amélioration aussi rapide de ta condition. » Elle lui a dit, « Mon fils, ce n'était pas ça. » Elle a dit, « Tu connais la petite mission du coin ici, les gens qui sont là. » Il lui a dit, « Oui, je m'en souviens. » Elle a dit, « Il y a une dame qui a dit avoir senti le besoin de venir me visiter, et elle m'a demandé si le pasteur pourrait venir prier pour moi, et puis je lui ai dit que je le voulais bien. » Elle a rajouté, « Le pasteur est venu, et il m'a lu ceci de la Bible. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens afin qu'ils vous soignent d'huile et qu'ils prient pour vous. La prière de la foi sauvera le malade. » Elle a dit, « Tu sais, il a pris ça des Écritures, et puis il a prié pour moi et m'a oint d'huile. Et le lendemain matin, je me sentais tellement mieux que le docteur m'a permis de m'asseoir. Quelques jours plus tard, j'étais sur pied. Eh bien, a-t-il dit, « Oh, gloire au Seigneur !» Elle a dit, « Mon fils, ne devrais-tu pas ?»« Maman, tu commences à agir comme cela. » Il a dit, « Écoute, maman, nous avons appris au collège que la seconde écriture qu'il a lue se trouve dans Marc 16, où il est dit, « Ces signes suivront ceux qui croient, ils imposeront les mains malades et ils recouvriront la santé. » Il a dit, « Nous avons appris au collège que Marc 16, depuis le 9e verset, n'est pas inspiré. Tu vois, ces gens ne vont pas à l'école, la plupart d'entre eux. Ils sont sans instruction, illettrés en quelque sorte. Assurément, ils ne font pas ça pour mal faire, mais a-t-il dit, nous avons appris à l'école que depuis le 9e verset, cela a été rajouté peut-être par le Vatican ou d'autres, mais il a dit, cette partie n'est pas inspirée. » La petite maman a poussé un grand alléluia et lui a dit, « Maman, qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Elle a dit, « Je me disais simplement, fils, que si Dieu pouvait me guérir par une parole qui n'est pas inspirée, que pourrait-il vraiment faire avec ce qui est vraiment inspiré ?» C'est pareil pour les autres promesses. « Quelque chose que vous demandiez en mon nom, je le ferai. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi, et que vous ne doutiez point en vous-même, mais croyez que ce que vous dites s'accomplira, vous pouvez avoir ce que vous avez demandé. Quand vous priez, croyez que vous recevrez ce que vous avez demandé, et il vous en sera fait ainsi. » Voyez, c'est tout inspiré, chaque parcelle. Quand Maurice Reed, un érudit remarquable, s'est présenté chez moi, il a reçu le baptême du Saint-Esprit, on s'est assis autour d'une table à café, et il m'a dit, « Frère Branham, si je comprends bien, vous étiez baptiste. » Et je lui ai répondu, « Eh bien, j'ai simplement été ordonné par l'église missionnaire baptiste quand j'étais tout jeune. Je n'appartiens pas à... Mais qui sont ces pentecôtistes avec qui vous rôdez, m'a-t-il dit. » J'ai répondu, « Ils sont comme vous et moi. » Il a ajouté, « Écoutez, croyez-vous que c'est le Saint-Esprit qu'ils ont reçu ?» J'ai répondu, « Bien sûr. » Il a dit, « Que signifie tout ce tapage et ces sauts et ces cris ?» J'ai dit, « Bien, il leur faut dégager la vapeur du sifflet. S'ils ne mettent pas ça en action, les roues ne vont pas tourner. » J'ai dit, « Apprenez-leur de quoi il s'agit, au lieu de tout faire sortir comme ça. Mettez votre foi, allez à l'œuvre, dans la rue. Essayez de faire entrer les gens dans le royaume de Dieu. » Il a dit, « Je les ai vus faire tout ça, mais laissez-moi vous dire pourquoi je suis ici. » Il a dit, « Un brave garçon venu de l'Inde pour étudier, quand il était prêt à retourner dans son pays, j'ai été le déposer à l'aéroport. Je lui ai dit, « Mon fils, maintenant que tu as ton diplôme, que tu retournes chez toi, » je pense qu'il avait étudié l'électronique, il lui a donc dit, « Pourquoi n'oublies-tu pas ce vieux prophète mort Mahomet, et n'acceptes-tu pas dans ton cœur un vrai Jésus-Christ ressuscité ?» Mais il a répondu, « Monsieur, je vais vous poser une question. Maintenant, souvenez-vous, cela vient d'une des plus prestigieuses écoles bibliques, des plus fondamentalistes, et cet homme était un de leurs enseignants. Il lui a demandé, « Qu'est-ce que votre Jésus pourrait faire de plus que mon prophète ?» Il a répondu, « Eh bien, mon Jésus peut te donner la vie éternelle. » Il a dit, « Le Coran promet la même chose. » Le Coran est la Bible des Mahométans, vous savez. Le Coran promet la même chose. Vous savez, le Coran n'a rien promis. Mahomet n'a rien promis d'autre que la vie après la mort. Jésus vous a promis, les enseignants, que ces signes et ces miracles suivraient. C'est ce que Jésus a dit. Puis il a dit, « Nous attendons de voir ces choses, vous voir, vous les enseignants, produire ces choses. Pensez à ça. » Il m'a dit, « Tout de suite, j'ai réalisé que je n'avais pas affaire à un « va comme je te pousse ». C'en était un, là, qui savait de quoi il parlait. Il aurait pu jouer le jeu, mais c'est une bonne façon de faire que l'ennemi vous saute dessus une fois comme cela, ensuite il saura par où aller, voyez. Il a dit, « J'ai réalisé qu'il n'était pas du genre « va comme je te pousse ». Et il a ajouté, « Eh bien, voici, Jésus est ressuscité des morts. » Il a dit, « Est-ce vrai ? Vous avez eu 2000 ans pour le prouver, a-t-il dit. Et c'est à peine si les 2/3 de la terre en ont jamais entendu parler. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec vous ? » Il a dit, « Si Mahomet ressuscitait des morts, la terre entière le saurait dans les 24 heures qui suivraient. » Et c'est juste. Vous voyez, ils ont un cheval qui attend à sa tombe. J'ai vu cela moi-même. Toutes les 4 heures, une relève des gardes se fait, espérant qu'il ressuscitera. Pour rendre un type de « venant sur un cheval blanc, voyez, pour conquérir le monde. » Et il a dit, « S'il ressuscite des morts, le monde entier le saura. » Il a répondu, « Eh bien, Jésus est ressuscité des morts, mais ton prophète est dans sa tombe. » Il a dit, « Comment savez-vous qu'il est ressuscité des morts ?» L'enseignant lui a répondu, « Il est dans mon cœur. » Il a dit, « Mahomet aussi est dans mon cœur, monsieur. » Il lui a répondu, « Mais j'ai la joie et la paix. » Il a dit, « Monsieur, le mahométisme peut produire autant de psychologie que le christianisme peut en produire. » Et c'est vrai. Vous devriez les entendre crier et hurler, c'est vrai, produire autant de psychologie que le christianisme. Il a dit, « Eh bien, que voulez-vous dire quand vous dites que Jésus vous a promis toutes ces choses ?» Il a répondu, « Je présume que tu te réfères à Marc 16. » Il a dit, « Oui, entre autres, c'en est un parmi d'autres. » Les dernières paroles de Jésus à l'Église étaient, « Allez par tout le monde en prêchant l'Évangile, et ces signes accompagneront le croyant. » Pour combien de temps ? Par tout le monde, à toute créature, s'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Ce sont là ces dernières paroles selon vos Écritures. » Il a répondu, « Eh bien, tu vois, c'est simplement, tu sais, cette partie n'est pas inspirée. Il ne voulait pas vraiment dire cela, ce n'était pas... » Il a dit, « Ce n'était pas inspiré ? Mais quelle sorte de livre lisez-vous ? Tout le Coran est inspiré. » C'est là un prétexte de la pauvreté de la théologie, une théologie artificielle qui n'a pas l'esprit pour se lever et faire face à la musique. Comme l'ont dit les Hébreux, notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente, mais toutefois, nous ne nous inclinerons pas devant sa statue. On a besoin de gens courageux. Les hommes qui ont pris Dieu au mot ont toujours été du genre courageux. Ils ont toujours cru au surnaturel, les hommes qui croient en Dieu. Monsieur Riddell a dit, « J'étais battu, frère Branham, au plancher, et je n'ai pas pu répondre à l'homme. » Il a dit, « J'ai résolu après cela de venir vous en parler et vous demander la raison de tout cela. » Il a ajouté, « Voilà pourquoi je suis ici. Si le Saint-Esprit... » Il a dit, « Frère Branham, ma mère m'a envoyé au collège. Quand j'ai obtenu mon diplôme, je croyais que c'était exactement... » J'ai dit, « Je sais ce que vous voulez dire. » Il a dit, « Puis un jour, j'ai obtenu mon diplôme et je croyais que je trouverais Christ là-même. Il n'y était pas quand j'ai obtenu mon baccalauréat. » Il a dit, « J'ai suffisamment de diplômes, de grades pour couvrir vos murs. Et où est Christ dans tout ça ?» J'ai dit, « Qui suis-je pour dire que les enseignants ont tort ? Mais ce n'est pas là le sujet, c'est la personne, Christ, que vous devez connaître. » À l'heure où l'on se parle, l'homme tient un peu partout de grandes campagnes d'évangélisation, et le docteur Livell, ici un bon ami à moi, est aussi un de ses amis. Et il a un grand succès, il prie pour les malades, et tient de grandes campagnes et tout. C'est parce que l'homme a cru. Maintenant, voyez, l'Esprit qui était en Christ, le corps, Jésus, qui était Dieu, Emmanuel, le Saint-Esprit, Dieu est descendu dans le Christ, et il a été fait Dieu avec nous. C'était pour nous racheter qu'il a versé son sang. Maintenant, dans l'Ancien Testament, quand l'adorateur venait et posait ses mains sur son offrande, et que le sacrificateur coupait la gorge de l'animal, le sacrifiait, l'adorateur tenait le sacrifice de ses mains et sentait la douleur de la chair, et le petit agneau mourait, sa laine baignait dans son sang et recouvrait les mains du croyant, et ainsi de suite. Il était pris pour être brûlé à l'autel. Le croyant réalisait qu'il aurait dû être celui qui méritait la mort pour ce péché, mais l'agneau mourait à sa place. maintenant, mais la vie qui était dans ce sang ne pouvait pas revenir sur l'adorateur, parce que c'était le sang d'un animal, lequel n'avait pas d'âme. Il y avait eu en conséquence un souvenir continuel du péché. Mais maintenant, Jésus étant Emmanuel, alors la vie de Dieu qui était en lui revient. Pas seulement la vie d'un homme, mais Dieu lui-même, dans la forme du Saint-Esprit, revient et fait de vous des fils et des filles de Dieu. Alors vous êtes des fils et des filles. Et puis quand vous sentez la terreur et la misère et le châtiment que Jésus a traversé lorsqu'il a été ridiculisé, son ministère appelé une œuvre du diable, Belzébul, est ridiculisé, raillé par les leaders religieux et rejeté. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Et tout ce qu'il a traversé pour ensuite donner sa vie sur la croix, pour racheter ce que Dieu avait vu à l'avance, racheter, ramener à l'endroit d'où c'était tombé, et puis Dieu l'a fait dans le but de renvoyer le Saint-Esprit sur l'Église, c'est-à-dire les individus, les croyants. Ce n'est que pour les croyants, ce n'est pas pour les incroyants, ils ne verront jamais cela, ils sont morts pour commencer. Regardez ces pharisiens, quand ils ont vu Jésus accomplir le signe même qui devait être le signe messianique. Regardez Pierre, il l'a cru sur le champ, et Nathanaël l'a cru sur le champ, la femme au puits l'a cru, et l'aveugle Bartimée. Tous ceux qui percevaient le signe y croyaient. Mais ces leaders se sont levés et ont dit, « C'est Belzébul, un esprit mauvais, une sorte de farce ou de truc. » Jésus a dit, « Vous dites ces choses contre moi, je vous pardonnerai. » Le sacrifice n'avait pas été immolé. Mais quand le Saint-Esprit viendra accomplir la même chose, un mot contre cela ne sera jamais pardonné en ce monde, ni dans le monde à venir. Pourquoi ne pouvait-il pas le croire? Jésus a dit, « Vous êtes de votre père le diable, et vous faites ses œuvres. » Croire la parole, c'est recevoir la parole et la laisser devenir vie. Maintenant, Dieu montrait comment il confirmait cette alliance. Cela doit se faire de cette façon. L'Église, non pas une organisation, non pas une dénomination, mais l'individu et Dieu deviennent le même esprit. C'est le but de Dieu depuis le commencement. Adam et Ève étaient le même esprit. La Bible a dit dans Genèse 1, 27, à l'image de Dieu, et Dieu est esprit. À l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle, il les créa dans la forme esprit qui était en Dieu. Et Adam devait s'occuper de la terre, tout comme le Saint-Esprit est maintenant supposé conduire l'Église. Et l'homme n'était toutefois pas dans la chair, et il était à la fois mâle et femelle, parce que c'est le même esprit. Puis Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre, et l'a fait dans la forme animale. Ce que nous reconnaissons, nous sommes des mammifères au sang chaud, et nous sommes à l'image de la vie animale. Et puis Dieu a pris une côte d'Adam, une femme est un dérivé d'un homme, pas exactement dans la création originale. Il a pris une côte, il a séparé le corps physique et a pris d'Adam l'esprit féminin et l'a mis dans Ève. Il y eut l'homme et la femme. Et quand ils dérogent à ces positions, ils sortent de leur condition première. Il y a une perversion quelque part. Quand une femme veut être masculine ou qu'un homme veut agir comme une femme, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Ils sortent de leur condition première. Nous le voyons dans Rebecca et Isaac étant de même sang, voyez, mais cela était un type de la semence naturelle d'Israël. Mais par la foi, Christ est venu sur la scène, ce qui n'est pas dans le naturel. Comme en Égypte, le sang se trouvait sur le montant de la porte. Votre circoncision, vos alliances importaient peu. Le signe devait être vu où l'alliance était annulée. Certainement, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Maintenant, le signe n'est pas le sang. Le signe est la vie qui était dans le sang, le Saint-Esprit. Peu importe votre degré de religiosité, à moins que vous ne receviez le Saint-Esprit, vous périrez. C'est la seule voie. Il n'y a pas d'autre écriture pour compenser, mais elle seulement. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés pour le jour de votre rédemption. Éphésiens 4, 30. Maintenant, remarquez pour récapituler. Cela montre qu'Adam et Ève étaient un au début. Le mari et la femme sont encore supposés être un. Maintenant, mais quand ils ont été séparés dans la chair, c'est là qu'Ève est tombée. Tombée pourquoi ? Pour avoir douté de la parole. Chaque phase de celle-ci. Il y en a qui peuvent prendre une partie de la parole, mais pas le reste. Elle doit y être au complet. Voyez, elle ne douta que d'une phase de la parole. Et si toutes ces maladies et ces troubles que nous avons maintenant sont venus par une seule femme ayant douté d'une phase de la parole, comment allons-nous récupérer quoi que ce soit, si ce n'est en croyant à toute la parole et en l'acceptant au complet? Ils étaient fortifiés par cette parole. Quand ils ont été deux dans la chair, ils sont tombés. Elle est tombée quant à la parole. Regardez, que cherchait-elle? Tout comme beaucoup de gens aujourd'hui, ils veulent une meilleure condition, une condition plus facile, plus stylisée. Ils ne veulent pas confronter la chose qui se tient devant eux. S'ils le font, ils sont excommuniés de leur organisation et considérés comme des minables. Ne savez-vous pas que les hommes diront toutes sortes de faussetés à votre sujet à cause de moi? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car grande est votre récompense dans le ciel, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes avant vous. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Maintenant, que désirons-nous entendre de plus de sa part? On pourrait entendre des milliers de citations d'Écriture qui appartiennent à ça, qui abonderaient de la Genèse à l'Apocalypse. Tout ce que nous avons aujourd'hui commence dans la Genèse. C'est le chapitre semence, toute incrédulité, et tout a commencé là. L'Église a débuté là, tout a commencé là. C'est comme deux vignes qui poussent et l'une imite l'autre et ressemble presque à l'autre. Comme Moab et aussi Moïse, voici Israël, peu nombreux, sans dénomination, sans nation du tout. Et ils se faisaient le même sacrifice ici à Moab. Une belle dénomination, tous leurs dignitaires y venaient, offraient le même sacrifice. Leur évêque Balaam est venu maudire ce que Dieu avait béni. Ils ont pensé, ces renégats, ils n'ont même pas d'église, comme c'est supposé. Ce ne sont que des vagabonds. Et il a dit, mais ils n'ont pas reconnu le cri du roi dans le camp. Il n'a pas remarqué le serpent d'airain là-bas, qui leur apportait la guérison divine, et le rocher frappé qui leur donnait la vie. Le cri du roi dans le camp. Il n'a pas remarqué cela, cet évêque aveugle. Mais néanmoins, fondamentalement, il faisait tout aussi correctement les choses que Moïse. Cet autel, sept sacrifices, et même un bélier était sacrifié qui parlait de la venue de Christ. Mais Dieu n'a besoin de personne pour l'interpréter. Il est son propre interprète. Il a fait la promesse ensuite, il l'a fait s'accomplir. Et c'est comme ça que c'est interprété. Personne n'a à l'interpréter. Dieu ne le demande à personne. La Bible n'est pas un sujet d'interprétation particulière. Tous essayent de dire que ça signifie ceci, cela. Laissons Dieu parler. C'est lui qui le fait. Il a fait la promesse. Il se tient derrière elle. Il le fait pour les croyants. Mais les incroyants ne reçoivent rien. Ce n'est pas pour eux. Ils sont morts. Pour commencer, ils n'ont même jamais été représentés, ils n'ont rien en eux, ce sont des enveloppes mortes. Vous ne voulez pas leur ressembler, soyez remplis de l'Esprit. Remarquez, il a séparé Ève et Adam, et elle est tombée. Adam est allé avec elle. Maintenant Adam n'a pas été séduit, Ève l'a été. Mais Adam, le premier Adam, était aussi le Fils de Dieu. Et il est allé à cause de son amour pour Ève, pour essayer de la ramener parce qu'il l'aimait. Christ a fait la même chose pour la racheter. À quoi? À la parole. Quelle a été la cause de la chute? Le doute en la parole, toute la parole. Et Christ est venu afin de devenir l'un de nous, sa vie en nous pour continuer la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair et habitée parmi nous, le même hier, aujourd'hui et éternellement, le même Dieu. C'est la raison de sa venue pour accomplir cela. Maintenant nous trouvons dans la structure qui nous a ramenés à lui-même, à racheter les errants qui erraient dans ces morgues-là. Ils reviennent à la parole identifiée. Maintenant, quand Jésus était là, ces Juifs ont peut-être dit, « nous avons la parole, voici ce que Moïse a prescrit, nous sommes les disciples de Moïse. » Jésus, âgé de 12 ans à peine, discutait avec eux. Voyez, c'est ce que les hommes font de cela. Mais Jésus a dit, « si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir témoignent de qui je suis. » De qui s'agit-il? tout homme envoyé de Dieu, Dieu témoigne par les œuvres qu'il lui a ordonné d'accomplir. Si ce n'est pas le cas et que les Écritures n'en parlent pas, laissez cela de côté. Même dans l'Ancien Testament, ils avaient un moyen de savoir si c'était vrai ou faux. Ils faisaient venir un songeur ou un prophète, ou je ne sais qui, ils l'amenaient à l'Urim Tumim. C'est une lumière surnaturelle. Dieu est toujours surnaturel, travaille dans le surnaturel. Tant qu'il y a un Dieu à l'œuvre, il y a le surnaturel, si c'est Jéhovah Dieu. Et peu importe combien le songe semblait vrai, s'il ne réfléchissait pas sur cet Urim Tumim, c'est qu'il était faux. De nos jours, l'ancienne sacrificature d'Aaron n'est plus, mais nous avons toujours un Urim Tumim. C'est la révélation de Jésus-Christ qui le révèle dans cette parole. Et tout ce qui est contraire à cette parole n'est pas Dieu, mais Dieu parle pour lui-même. Il s'identifie avec sa parole. C'est là où Jésus a vaincu Satan. Il est écrit. Ensuite, voici qu'est revenu Satan. Il s'infiltra à nouveau. Il a dit, oui, c'est aussi écrit. Mais cette fois-là, quand il s'est essayé, il a touché à un haut voltage. Cette fois-là, ça lui a chauffé les ailes. Il s'est enlevé du chemin. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Arrière de moi, Satan. Voyez ? Remarquez ce qui est arrivé. Dieu s'est toujours identifié par sa parole promise. Maintenant, si ces pharisiens avaient bien relu les paroles de Moïse, qui prescrivaient « L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi », c'était dans les Écritures. Mais il n'est pas étonnant que Jésus ait remercié le Père, disant « Je te remercie, Père, d'avoir caché ces choses aux yeux des sages et des prudents, et de les révéler aux enfants qui veulent apprendre. » Ce jour-là, quand il a dit à Pierre en redescendant, quand il a dit « Qui les hommes disent-ils que je suis, moi le Fils de l'homme ?» L'un d'entre eux avait dit qu'il était Élie, l'autre Moïse, et ainsi de suite. Il a dit « Ce n'est pas ce que je vous demande. » Il a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il a dit « Béni es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Tu n'as jamais appris cela au séminaire, personne ne t'a enseigné cela, mais c'est une révélation. » Oh là là, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. La révélation ou l'identification de Jésus-Christ. Il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Maintenant, allons voir en ce temps-là. Allons au 17e chapitre. Nous le retrouvons ici au 17e chapitre où il apparaît à Abraham après la confirmation de ces choses, montrant ce qu'il allait faire. Et maintenant, rappelez-vous, l'Esprit est descendu, et l'Esprit qui est dans l'Église, la réelle Église, la vraie Église, l'Église de Dieu, le peuple de Dieu, l'Esprit qui est en eux, sur eux, le même Esprit est sur Christ, avec une promesse, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Rappelez-vous, tout juste avant la crucifixion, ils ont mis sur ses yeux un bandeau et l'ont frappé à la tête avec un roseau, et ont dit, « Maintenant, si tu es le Fils de Dieu, si... on dit que tu es un prophète, alors prophétise, prophète. » Ils se sont passés le roseau. « Dis-nous qui t'a frappé. » Vous voyez ce vieux diable, vous voyez? Il a dit, « Je comprends que tu es un grand faiseur de miracles. Tourne ces pierres en pain. Laisse-moi voir ça. Je vais te croire si tu changes ces pierres en pain. Je croirai alors, c'est certain. » Il y a quelque temps, un homme m'a dit, « Si vous pouvez me confirmer par la déclaration d'un médecin qu'une personne a été guérie. » J'ai dit, « Oh, monsieur miséricorde, arrêtez-moi ça, des milliers de médecins pourraient en témoigner. » Il a dit, « Si vous le pouvez, il y a $1,000 pour vous. » Et j'ai amené les médecins et les cas. Il a dit, « Eh bien, l'argent est... » J'ai dit, « Je prendrai cet argent comme offrande missionnaire. On enverra outre-mer quelqu'un qui croit l'Évangile. » Il a dit, « Eh bien, je vais prendre une petite fille... Et devant moi et mes frères, nous lui couperons une main et vous la guérirez ici même devant nous, et là nous vous croirons. » J'ai dit, vous avez besoin d'une guérison mentale. C'est exact. Un homme aussi possédé du diable. Le même a dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es, descends de la croix. Oh, quand la Bible même disait qu'il devait mourir sur la croix. Caïphe a dit, il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même. Ne reconnaissant pas qui lui faisait le plus beau compliment qu'il n'eût jamais reçu. S'il s'était sauvé lui-même, il n'aurait pu sauver les autres. Il devait donner sa vie. Certainement qu'il savait qui l'avait frappé. Mais il ne fait pas le bouffon pour le diable. Dieu n'est pas un bouffon. Il ne fait pas le bouffon pour le diable. Ses œuvres sont envoyées à ceux qui croient, pas pour être utilisées pour du spectacle. Remarquez, il lui est apparu ici alors qu'il avait 90 ans, et il lui est apparu dans le nom du Dieu Tout-Puissant. Ce nom-là en hébreu est El Shaddai. Maintenant, Dieu a 7 noms composés de rédemption. Nous savons cela. Et vous ne pouvez pas les séparer de Christ. Vous ne pouvez pas les séparer. Christ a porté chacun de ces noms composés de rédemption. Croyez-vous cela? Amen. Croyez-vous qu'il est Jéhovah Jireh, c'est-à-dire l'Éternel pourvoira un sacrifice? Amen. Et puis qu'en est-il de Jéhovah Rapha, le Seigneur guérit toutes tes maladies? Amen. Et si ça ne s'appliquait pas à Christ, alors il n'était pas Jéhovah Jireh. Ainsi vous ne pouvez séparer ces choses, c'est tout lié ensemble. Et c'est devant vous, il ne peut être Jéhovah Rapha sans être Jéhovah Jireh, pas plus qu'il ne peut être Jéhovah Jireh sans être Jéhovah Rapha. Il a été blessé pour nos transgressions, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il n'y a pas d'argument à ce sujet. Ici nous trouvons qu'il apparaît dans le nom de El Shaddai, le Tout-Puissant. En effet, le mot hébreu Shad, S. H-A-D, certains le prononcent Shad. Shad signifie poitrine, comme la poitrine d'une femme. Et il lui est apparu dans le nom de El Shaddai, qui est au pluriel, saint, au pluriel. Je suis le Dieu qui a des saints. Abraham, 99 ans, marche devant moi. Mais sois parfait, crois en ma parole, continue de croire. J'ai promis alors que tu avais 75 ans. Voici, cela fait 24 ans que je t'ai fait la promesse. Et quel réconfort cela a dû procurer à un vieil homme de 99 ans, sans force dans son corps. Et ici, Dieu se tenait devant lui, disant, « Je suis El Shaddai, je suis le Dieu qui a des saints. Amen. Tire la force de moi, je suis ta force. » Comme le Nouveau et l'Ancien Testament, « Dieu qui a deux saints, je suis le Dieu qui a des saints, tire ta force de moi. » Lorsqu'un petit bébé est malade et qu'il pleure, malade et affaibli, il se nourrit au sein de sa mère et refait ses forces. En d'autres mots, Abraham, tu n'es qu'un bébé pour moi, 99 ans. Rappelez-vous seulement, Jésus a été crucifié comme si c'était hier. 1000 ans sur terre, c'est seulement une journée pour Dieu. Voyez, c'est comme s'il avait été crucifié hier. Et remarquez, je suis El Shaddai, tu es le petit bébé sans force, mais appuie-toi sur mon sein, ma promesse, et tire ta force de moi. Je suis le Créateur qui a formé les cieux et la terre et les étoiles dans l'infini. Y a-t-il quelque chose de trop grand pour Dieu? Je suis El Shaddai, et tu es mon enfant, même si tu es faible, et je l'ai permis ainsi pour voir ce que tu allais faire de cela. Je vais faire de toi un exemple pour les gens à venir, pour que l'homme croie en ma parole. Je me tiendrai derrière elle, peu importe ce que cela requiert, combien de temps, je le ferai, je me tiendrai avec elle, El Shaddai, tire ta force de moi. Oh, vous dites, si je pouvais croire, il est toujours El Shaddai, il est toujours le Dieu qui a des saints, le Nouveau et l'Ancien Testament, tire simplement ta force de cela, oh, tout ce dont tu as besoin. Le bébé, il ne peut céder lui-même. Il doit tirer sa force de sa mère. C'est de la seule manière qu'il peut tirer sa force. C'est de la seule manière qu'un croyant peut obtenir de la force. C'est de la tirer de la parole de Dieu. C'est là sa force. Les promesses de Dieu pour lui. Reste avec elle et crois en elle. Et ce n'est pas seulement quand le petit bébé est malade et qu'il pleure. Sa mère peut le garder sur son sein et il va refaire ses forces. Il est satisfait pendant qu'il se nourrit. C'est ainsi avec le vrai enfant de Dieu. Peu importe ce que les sceptiques disent ou croient, si vous croyez vraiment en cela, Jésus ne peut mentir. Vous êtes satisfait que cela vous soit révélé. vous avez la promesse et rien ne va l'arrêter. Sur ce roc, je bâtirai mon Église. Voyez, la parole de vérité révélée spirituelle. Tandis que vous êtes dans l'attente, reposant sur votre foi, prenez la promesse de Dieu. Je te crois, Seigneur. Tu m'as promis de me donner le baptême de l'Esprit. Je me repose en toi, dans la foi. La foi que j'ai en toi, je la tire pour ma ressource, pour ma santé, de ta ressource, la parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais du sein de Dieu, il tirera sa force. Il recevra sa force de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, la parole. Tout comme Abraham se reposait. Maintenant, il demeurait avec Sarah depuis qu'elle était une jeune fille. Elle était sa demi-sœur, et il vivait avec elle, et elle avait marié. Elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant, et ici, elle a déjà 89 ans. Toutefois, Abraham, repose-toi dans la foi en ma parole. Je t'ai fait la promesse, je l'accomplirai. Je suis El Shaddai, je suis le Dieu qui a des seins pour mes enfants qui croient. Si vous ne voulez pas vous nourrir, eh bien alors, n'en parlez plus. Vous voyez? Cependant, si vous êtes un enfant, vous vous nourrissez et vous reposez sur chaque promesse. Remarquez, une vraie foi se repose sur le roc solide de la promesse de la parole de Dieu. Elle ne dévie pas, la vraie foi est ancrée, comme il en est de l'étoile polaire. L'étoile polaire est un pieu d'ancrage pour tout marin. La boussole ne pointe qu'en sa direction. Et Dieu, la parole, est l'étoile polaire de tout chrétien. Si vous vous perdez, le Saint-Esprit est ce qui vous dirige en sa direction. Il ne vous dirigera jamais à autre chose. Tous les autres ismes et ainsi de suite, dont le christianisme s'est entremêlé, quoi que ça puisse être, sont comme la terre qui a dévié de son axe. Ça a changé la position des étoiles, mais ça n'a pas pu changer la position de l'étoile polaire, pas plus que ça ne peut changer la parole de Dieu. Ancrez-vous en elle, demeurez avec elle. Maintenant, une vraie foi ne dévie pas par des credos, par des doctrines inventées, ni par incrédulité. Elle reste directement avec la parole. Une vraie foi dans la parole. Et en quoi d'autre pouvez-vous poser votre foi à part la parole? Si Dieu l'a dit, ne bougez pas de là. C'est vrai, elle ne dévie pas. Est tirée du livre au sein, aux deux saints de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Ses attributs, ce qu'il a promis. Ce qu'il a promis, c'est sa parole. La parole se reproduit. Elle doit d'abord être une pensée avant d'être une parole. Ensuite vient la parole. Alors la parole est manifestée. Et c'est de là où vous tirez votre force. Croyez, croyez, croyez qu'il était le Créateur qui a fait le monde. Le Nouveau Testament dit ici, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Le même but qu'était-ce. Ils doutèrent de Dieu, et la maladie et le trouble sont entrés dans le camp. Et il éleva le serpent. Dans quel but? Pour leur guérison et leur pardon. C'était pour cela. Et l'airain représente le jugement divin. Et Jésus était ce serpent jugé, bien sûr, l'airain. Maintenant, après avoir confirmé l'alliance, ou plutôt après que l'alliance se soit manifestée à lui, elle donne la foi au véritable Fils de Dieu. La parole donne la foi. Celui qui a des seins, quand l'alliance est manifestée, elle donne la foi au véritable Fils de Dieu. Maintenant, nous savons, nous le réalisons en ceci, qu'il a été appelé Elohim. Le mot dans cette traduction-ci signifie aussi Elohim. Allez voir pour être certain, Elohim. Et Elohim est celui qui se suffit à lui-même. Il est El Shaddai, Elohim, le Dieu qui a des seins, le Dieu qui se suffit à lui-même. Il n'a besoin de l'aide de quiconque, il est votre suffisance. Remarquez, la même chose est témoignée ici. Je l'ai remarqué cet après-midi pendant que j'étudiais dans Job. Il est appelé Elohim. Et Job a été ridiculisé, raillé. Ça exprime bien la réalité d'aujourd'hui. Mais Job se reposait sur la promesse d'Elohim. Après ma peau, ceci aura été détruit. Toutefois, dans ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai de mes yeux. Se reposer en Elohim, peu importe ce qui vient. Sa femme est venue lui dire, « Tu fais pitié, Job, et voici que ses consolateurs sont venus. Oh, tu vois ce qui t'est arrivé, mon vieux. Je t'avais dit que tu faisais erreur tout ce temps. Tu vois ce qui est arrivé. Beaucoup de gens aiment à jeter le blâme comme cela sur les autres. Job était l'homme le plus influent de son jour. L'homme le plus fiable que Dieu avait sur terre était Job. Il dit à Satan, il n'en est pas d'autre comme lui. Amen. L'as-tu considéré ? Satan a dit, oui, tout lui est facile. Brise cette protection et laisse-le-moi, je le ferai te maudire en face. Il a fait tout ce qu'il a pu, mais il n'a pas réussi. Job s'est reposé sur cette promesse. Les gars sont venus et ont dit, « Maintenant, où est ce Dieu dont tu parlais toujours ?»« Tu croyais qu'il était ce Dieu ? Regarde-moi ce qui t'arrive !» Mais il se reposait en El Shaddai, même si ses ulcères le faisaient souffrir et que sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Il était assis sur un tas de cendres, grattant ses ulcères. Sa femme lui a dit, « Pourquoi ne maudis-tu pas Dieu et ne meurs ?» Il lui a répondu, « Tu parles comme une femme insensée. » Oh là là, l'Éternel a donné, et l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit béni. Je mets ma foi en Elohim, quand il détruirait ce corps, quand ma peau serait détruite, toutefois dans ma chair, je verrai Dieu, je le verrai, mes yeux le verront, et non un autre. Il y était, dans Matthieu 27, quand les saints sont ressuscités, quand ils sont sortis et sont entrés dans la ville. Un type même d'aujourd'hui, dans l'attente à nouveau, ayant foi dans la promesse. Remarquez, c'est après avoir apparu dans ce nom, le nom du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, Église, on peut se permettre juste un peu de doctrine ici. Peut-être que c'est un peu confus pour vous. Si vous n'y croyez pas, cela vous regarde. Nous sommes ici, je vais prêcher ce que je pense. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez penser. Mais remarquez, toutes ces choses étaient des types, des ombres et des exemples, comme la Bible dit qu'elles étaient. C'est ce qu'elles étaient, et c'est ce qu'elles sont. Dieu est en train de traiter avec Abraham dans son voyage, tout comme il le fera avec la semence royale d'Abraham dans son voyage. Remarquez, il traite avec les Juifs de la même manière. Tout part de là, dans la promesse de cette alliance. Toute nation, tout peuple. Remarquez, c'est après l'apparition dans ce nom de Dieu Tout-Puissant, et il lui était révélé qu'il était celui qui se suffit à lui-même. Il n'avait pas de subalterne, il n'en a pas besoin d'aucun secrétaire, il était seul, Dieu, il était Dieu seul. Et il est apparu à Abraham dans ce nom, et pendant qu'il lui apparaissait dans ce nom, et Abraham l'avait reconnu, il changea le nom d'Abraham. Il est parvenu à la plénitude de la foi maintenant. Voyez-vous l'endroit où l'Église est parvenue? J'espère que vous pouvez lire entre les lignes. Il est parvenu à l'endroit où il lui a révélé qui il était, et ensuite il a changé le nom d'Abraham pour que la promesse puisse être accomplie. Là, vous dites, il n'y a rien dans un nom. Alors pourquoi a-t-il changé le nom d'Abraham, de celui de Abraham en Abraham? Pourquoi a-t-il changé le nom de Jacob, de celui de Jacob, supplanteur en Israël, prince avec Dieu? Pourquoi a-t-il changé le nom de Saul en Paul? Bien sûr, son nom certainement signifie quelque chose. Certainement, si vous n'avez pas le nom approprié, Dieu va le changer s'il vous a appelé. Oui, monsieur. Remarquez, il a maintenant changé son nom ici de celui de Abraham en Abraham, ce qui signifie « père des nations » par l'addition de H-A-M. Abraham, il l'a fait pour que la promesse complète puisse être accomplie. Et le Fils, maintenant qui était attendu depuis si longtemps, a pu être vu, ou si l'on veut être révélé, quand il a changé son nom, et après qu'Abraham eut reconnu qui il était. Il aurait pu penser qu'il y en avait plusieurs, mais il a reconnu qu'il était Elohim, Dieu seul. En conséquence, après l'avoir reconnu, c'est alors qu'il a changé son nom. Il a dit, « Maintenant, Abraham, tu ne seras plus appelé Abraham, mais Abraham, car je t'ai fait père, un père des nations. » Abraham est maintenant en condition. Il est en condition après la révélation de qui il est. Il est maintenant en condition de voir le Fils révélé. Le Fils va bientôt apparaître pour se révéler. Ô enfant d'Abraham! Remarquez, il a changé le nom de son messager à la toute fin. Il avait 99 ans. Il reste une année et il a changé son nom d'Abraham à celui d'Abraham. Changeant son nom, ajoutant le H-A-M, ce qui veut dire père, il devait être un père d'une promesse, père de la promesse. Oh, si vous avez un discernement spirituel, écoutez. Après la révélation de son nom, de qui il était, il a changé son nom. Après la révélation, il frappe maintenant la terre. Il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y en a qu'un. C'est maintenant l'heure pour la révélation du Fils qui a été promis d'être révélé à la semence royale d'Abraham, de la promesse. Regardez, il a changé ça de Wesley, baptiste, presbytérien, pentecôtiste. Je ne sais pas si je dois le dire ou non, vous n'avez pas à le croire, mais j'espère que vous me le pardonnerez car je ne veux pas vous blesser. Mais regardez, il n'y a jamais eu un messager pour les églises de Dieu à travers l'histoire entière du temps qui n'ait eu un conducteur depuis la réforme comme le conducteur que nous avons aujourd'hui, Billy Graham. N'est-ce pas? Parce qu'il a parcouru le monde entier, voyez. Et remarquez, nous n'avions jamais eu un homme, un réformateur, prenons Sankey, Moody, Finney, Calvin, Knox, qui l'aurait pu être, Wesley, Luther. Il n'a jamais eu un dont le nom se terminait par H-A-M avant lui. Le seul messager que nous ayons jamais eu au cours des âges de l'Église, dont la terminaison du nom était H-A-M, est Graham. G-R-A-H-A-M. Et Graham se compose de 6 lettres, et 6 est un nombre d'hommes, un jour d'homme. L'homme a été créé, Genèse 1, 26, le sixième jour. Mais 7 est le nombre de Dieu, le septième jour. Dieu se reposa. Non pas 6, démontrant que ce G-R-A-H-A-M serait envoyé à l'Église qui est dans le monde, mais A-B-R-A-H-A-M, Abraham, 7 lettres. Vous direz, il n'y a rien dans les nombres, c'est que vous ne connaissez pas la partie numérique de votre Bible, voyez. Vous ne la saisirez pas bien si c'est le cas, certainement pas. La perfection de Dieu est dans le nombre 3, l'adoration dans le nombre 7, la tentation dans le nombre 40, le jubilé dans le nombre 50. Oh, tout ce que vous voulez faire, toutes les maths, la Bible est faite de mathématiques. Voyez, le sixième est un messager envoyé au monde, et remarquez bien, le septième est un nombre de Dieu. Et remarquez qu'à cette heure de l'apparition maintenant, ou du dévoilement du Fils, quand cela va être révélé, le Fils, ils ont déjà reconnu son nom, su qui il était. Il est El Shaddai, l'Élohim Tout-Puissant. Mais maintenant, nous parvenons à l'heure de la révélation du Fils promis. Le Fils Isaac, qui était promis, est prêt à venir sur scène. Et il ne pouvait pas le faire avant qu'il n'eût changé son nom, Abraham en Abraham, parce qu'il était un père des nations. Remarquez, Am, H-A-M, père des nations. Regardez combien cela s'applique à Malachi 4. Ramenez la foi des pères, la semence d'Abraham, sa semence royale étant ramenée à la qualité de foi que ce père Abraham avait. Malachi 4, pour être accompli, doit ramener la foi qui était une foi là au commencement, la ramener à la semence royale d'Abraham. C'est une promesse, c'est exactement la promesse. La semence royale doit être révélée, et par la semence royale, laquelle est la semence royale de Christ. Christ est la semence royale, et la semence est le Saint-Esprit qui est dans le cœur des gens qui croient en Dieu, qui gardent sa parole, et Dieu travaillant à travers eux, portant le même message, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, cependant, vous me verrez. Je serai avec vous, même en vous, et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Voyez, révélons cela dans ces derniers jours, de quelle manière c'est supposé arriver. Considérez maintenant le 18e chapitre. Immédiatement après le changement de nom, Dieu apparaît, se révèle lui-même dans la chair. Après que le nom est connu, qui il est, Dieu apparaît dans la chair. Abraham, par un jour chaud, à quelques semaines près ou quelques mois près de la destruction par le feu de Sodome et de l'arrivée d'Isaac. Et remarquez, Abraham est assis sous son chêne. Et Lot est à Sodome, et ils se réjouissent des plaisirs du monde. Il est toutefois le pasteur Lot qui avait probablement là-bas une belle petite congrégation, mais quoi qu'il ait fait, la Bible dit, la méchanceté et les péchés de ce temps irritaient son âme juste. Aussi, il doit avoir eu un tas de Lot comme on les a aujourd'hui, mais il savait qu'il ne pourrait rien dire à ce sujet. Aussi remarqué, c'était là sa condition. Mais Abraham, après qu'il s'eût révélé à lui, voyez, Elohim était celui qui lui avait parlé. Il est maintenant assis sous le chêne et il voit venir trois hommes, marchant comme des êtres humains. Notez bien l'effet que la révélation de qui était Dieu eut sur Abraham, l'effet que cela a eu pour lui. Après que son nom eut été changé de Abraham en Abraham, qu'il eut vu venir trois hommes et eut appelé les trois un, mon Seigneur, trois d'entre eux étant un, Lot, le nombre six n'en a pas fait autant. Il en a vu venir deux et il les a appelés mes seigneurs. Les visions et révélations d'Abraham lui ont montré qu'il était l'Élohim qui se suffit à lui-même. Sa semence recevra la même chose. Voyez comment il s'est révélé, comment il s'est fait connaître lui-même pour confirmer si oui ou non il avait dit vrai. Remarquez le signe qu'il a donné pour la foi authentique. Qu'a-t-il fait pour qu'Abraham sache qu'il était Élohim? Ici, il dit « Mon Seigneur » avec un S majuscule E-I-G-N-E-U-R. Tout étudiant sait que c'est Élohim, celui qui se suffit à lui-même, Élohim. Un homme m'a déjà dit « Vous ne croyez tout de même pas que c'était Dieu ?» Je lui ai répondu « J'en suis certain, Abraham a dit que c'était Dieu, il lui a parlé, il devrait savoir. » Oui. « Oh » a-t-il dit, « Vous voulez dire que Dieu a mangé du veau et bu du lait de vache, et mangé des pains de maïs ou la sorte de pain que vous voudrez ?» J'ai dit « C'est ce qu'il a fait. Pourquoi ? Vous ne connaissez tout simplement pas notre Dieu. » Nous sommes composés de 16 éléments, de pétrole, de lumière cosmique, de potasse, de calcium, ainsi de suite, de 16 éléments. Il les a simplement mélangés ensemble, puis a soufflé à l'intérieur et marché sur la terre. Je suis si heureux qu'il soit ce genre de père. Bien que les vers de ma peau détruiraient ce corps, malgré cela, il vous appellera. Il a promis de le faire, il est Elohim. Il a pris une autre poignée et a dit, « Viens ici, absinthe, ou quoi que c'était, les anges. » Et descendons, allons voir à Sodome ce qui s'y passe. Et Abraham, après la révélation, vit ces choses et sut qu'il y avait un seul Dieu. Il le vit et dit, « Mon Seigneur, viens par ici, assieds-toi, laisse-moi te laver les pieds. » Il n'a jamais dit, « Seigneur », avec un S minuscule. Remarquez, c'est en majuscule ici. Vous êtes tous au courant de cela. J'ai l'emphatique diaglotte avec moi. Voyez, c'est un S majuscule E-I-G-N-E-U-R, Seigneur, Elohim, le Dieu suprême. Il a dit, permets que je puise un peu d'eau et que je te lave les pieds et que je te donne un morceau de pain, ensuite tu pourras poursuivre ton chemin. Il se fait tard et je ferais mieux de me dépêcher. Je voulais arriver à ce point-ci et je ne sais pas quand je pourrais y arriver. Voudriez-vous m'attendre encore un peu de temps? Amen. Remarquez, Elohim, le Dieu suprême, Dieu, remarquez bien ce qu'il a fait. Bon, deux d'entre eux ne cessaient de regarder vers Sodome, et il a dit, « Penses-tu que je cacherai à Abraham ce que je vais faire ? » Il ne fait rien sans l'avoir d'abord révélé à ses prophètes, vous voyez, il leur fait connaître, et il a dit, « Je ne le cacherai pas, puisqu'il est béni de Dieu et qu'il va hériter la terre, et ainsi de suite. Sa semence va être, autrement dit, va être père d'une multitude de nations. » Je ne lui cacherai pas, je vais l'en avertir. Ainsi, il lui en a parlé, a commencé à lui révéler. Et il a dit, Abraham, non pas Abraham, Abraham, où est ta femme? S-A-R-A. Comment savait-il cela? Et quoi, le jour d'avant, il était Abraham, un jour ou deux auparavant, elle était Saraï, et maintenant elle est Sarah, et lui Abraham. Il a dit, Abraham, où est ta femme, Sarah? Abraham a répondu, « Elle est dans la tente derrière toi. » Il a dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et ce fils qui a été promis est maintenant prêt de voir le jour. Vous l'aurez. » Et Sarah en elle-même a comme ri, se disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs avec mon Seigneur, lui qui est vieux ? » quelque chose comme cela, parce qu'il avait 90 ans et lui en avait 100. Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Et l'ange, le messager, Dieu dans une chair humaine, a dit, « Pourquoi a-t-elle ri ?» C'était une confirmation. Pourquoi? Pour montrer que la révélation était incontestable, pour montrer qu'il lui avait donné le nom exact en l'appelant Elohim, parce qu'il était la parole. Hébreux 4, verset 12 dit, « La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, elle discerne les pensées et les intentions du cœur. » Et quand Abraham a vu ceci, il était sûr alors qu'il pouvait l'appeler Elohim. Elohim, il était la parole, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notez que lorsque Jésus, la semence royale d'Abraham, est venu sur scène, il s'est révélé à la semence naturelle d'Abraham sous le même signe, et ils l'ont appelé Belzébul. Ça les a aveuglés, les incroyants, ça les a aveuglés, et ça les a poussés à blasphémer et à les précipiter en enfer, mais cela a donné une vision éternelle aux croyants destinés à la vie éternelle. Voyez, Jésus a promis que dans les derniers jours, juste avant la venue du Fils de l'homme, qu'il viendrait, se révélerait. Au jour où le Fils de l'homme sera révélé, cette semence royale d'Abraham verrait le même signe. Maintenant, remarquez quand il a dit dans Luc 17, 28 et 30, ce qui arriva du temps de Sodome. C'est Jésus qui l'a dit. Je n'en suis pas responsable, je suis responsable d'en parler, de dire ce qu'il a dit. Mais Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. Remarquez bien, au jour où le Fils de l'homme sera révélé, quand le Fils de l'homme sera révélé à son Église, comme pour Abraham. Il était Dieu, il a continué à se révéler, il a confirmé l'alliance, a reconnu qui il était, et son nom a changé. Remarquez, il a changé juste avant qu'il ne vienne sur la montagne, regardant vers Sodome, juste avant que le Fils promis ne vienne. Jésus a parlé de cette foi-là. Jésus lisait la même Bible que vous et moi lisons. Si vous voulez savoir de quoi il s'agissait, retournez voir ce qu'il faisait du temps de Sodome. Remarquez, pas tant au jour de Noé, parlant de leur immoralité, et que les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, se remariaient, mais à Sodome. Maintenant, ce n'est plus par l'eau. Dieu l'a promis par un signe, l'arc-en-ciel. Il nous a donné un signe. Il donne toujours des signes. Il se rappelle à jamais de ses signes, reste toujours loyal à ses signes au cours des années, ne manque jamais de rappeler l'arc-en-ciel. Il donne toujours ses signes. Et par ce signe, il a promis de ne plus détruire le monde par l'eau, mais il a dit qu'il brûlerait. Et remarquez que Jésus ici dit ce qui arriva du temps de Sodome. Le monde des gentils allait être détruit. Et voyez ce qui se passe dans les nations. Un homme, G-R-A-H-A-M, les pousse, leurs politiciens, vers l'Église naturelle, du côté de l'Église spirituelle maintenant. Il n'y a toujours que trois classes de gens. Ce sont les croyants, les incroyants, les soi-disant croyants. On les retrouve dans toutes les assemblées. Si vous sentiez la pression que je ressens, vous sauriez qu'ils sont ici ce soir. Donc, vous et les trois. Voyez, c'est comme ça. Il y a toujours ces trois classes partout. Si vous voyez que c'était supposé être la même chose quand le Fils de l'homme serait révélé à la semence royale d'Abraham à travers Christ, Christ est la semence royale quand il est révélé dans les derniers jours. Maintenant, positionnellement, le monde se trouve exactement dans cette condition parce que le Fils qui s'est levé à l'est se couche à l'ouest. C'était un jour sombre. Les organisations, les dénominations, mais vers le soir, la lumière paraîtra, a dit le prophète Zacharie. Maintenant et au jour où le Fils sortira de derrière les nuages de la dénomination pour se révéler lui-même, il a dit que le monde se présenterait comme il en était du temps de Sodome. Et le Fils de l'homme se révélerait de nouveau à son peuple. Voyez comment il l'a révélé à la semence d'Isaac. Voyez comment il va le révéler à sa semence royale, l'épouse royale, la reine. La reine est la semence royale. Tout comme Dieu a tiré une nation hors d'une nation en Égypte, il fait sortir une église d'une église, ou une épouse d'une église, une église hors d'une église. Et le reste de la semence de la femme, c'est ce qui a été laissé. Il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents parce qu'elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Et l'huile représente toujours le Saint-Esprit. Les voilà. c'est tout en position. Et regardez maintenant sur la colline, l'Église, Abraham, Lot, les Sodomites, le monde, l'Église, l'élu, l'Église, l'épouse hors de l'Église. Nous sommes positionnellement à nos places. Le monde est tout à fait dans le bon élan pour cela. Perversion, tout est perverti. Je vous le dis, tout est hybride. J'ai vu un grand panneau qui disait « maïs hybride ». Eh bien, c'est pas bon, non. Cela devrait faire s'affoler les athées alors que Dieu a dit que chaque semence produit selon son espèce. Et vous pouvez hybrider le maïs et en faire de beaux épis, mais vous ne pouvez pas le faire repousser une autre fois. La vie ne s'y trouve pas. Et c'est ce que vous avez fait de l'Église. Nous la rendons belle, la décorons de guirlandes dénominationnelles, mais elle n'a pas de vie en elle. Elle ne peut plus produire l'évidence de cette Bible. Voyez, elle ne peut produire l'évidence de la résurrection de Christ. Elle est un produit hybride. Les gens les mieux habillés, les mieux payés, les plus grandes dénominations, les plus riches de l'âge de l'Odyssée. Exactement, riches, n'ayant besoin de rien, mais ne sachant pas qu'ils sont misérables, dépourvus, aveugles, pauvres, nus. Si un individu sait qu'il est nu, vous pouvez lui en parler, mais quand il ne le sait pas, c'est un triste cas pitoyable. Ne vous moquez pas des gens, mais ayez pitié. Qu'en serait-il s'il s'agissait de vous? Qu'en serait-il si la parole ne vous était pas révélée? Que feriez-vous? Quoi d'autre compterait si vos yeux étaient à ce point aveugles pour ne pas voir ces choses? C'est triste à voir. Et tout à fait en position. C'est là, exactement comme il a dit que ça se passerait. Ces signes arriveront dans les derniers jours. Voyez où ils se trouvent, très exactement. Maintenant, surveillez ceci, l'hybridation. Accouplez un âne et une jument, et qu'allez-vous obtenir? Vous aurez un mulet. Mais ce mulet ne pourra pas se reproduire, voyez. Dieu a dit que toute semence produit selon son espèce. Maintenant, d'où vient votre évolution? Votre propre programme est condamné, ce en quoi vous avez dit croire. Dieu a dit que chaque semence produit selon son espèce. Ça ne peut plus se reproduire, non, c'en est fini. Et je pense que le mulet est l'une des bêtes les plus stupides que je n'ai jamais vues de ma vie. Vous ne pouvez rien lui apprendre. Il restera planté là avec ses deux grandes oreilles, vous savez, et il attendra le moment propice pour vous décocher un coup de sabot avant sa propre fin. Vous ne pouvez rien lui apprendre. Ça me rappelle, il restera là et vous lui direz des choses. Ça me rappelle certaines gens qui disent être des croyants. De longues oreilles, assis là, ils disent, les jours des miracles sont passés, il ne sait pas d'où il vient, il ne connaît rien de ses origines. La seule chose qu'ils connaissent, c'est son credo d'église. Mais laissez-moi vous dire que j'ai du respect pour un pur sang. Il vous donnera son pédigré. Il peut vous dire qui était son père, qui était sa mère, qui était sa grand-mère, son grand-père. Il a un pédigré. Ainsi en est-il des chrétiens. Leur pédigré les ramène tout droit au livre des actes, où ils voient leur origine née du même esprit, de la même chose, agissant de la même manière. Les mêmes persécuteurs. Les ânes et les chevaux se nourrissant dans le même champ, c'est exact, voilà. Vous devez pourtant les avoir. C'est un jour hybride. J'ai vu un article du Reader's Digest il n'y a pas longtemps qui disait que si les femmes continuaient à se nourrir de ces aliments hybrides, elles ne pourraient plus avoir d'enfants. Elles se sont transformées. Elles deviennent plus larges des épaules et plus étroites des hanches. Eh bien, vous savez, l'homme se détruit toujours par la civilisation. Revenez à Dieu, croyez en Dieu, revenez à la semence originale, revenez et croyez-y. Vous avez mes bandes, je suppose que vous avez fait l'écoute de la semence originale et l'arbre de l'épouse, et ces choses qui sont la vérité. Le Seigneur connaît ces choses. Comment ces choses sont prédites des mois et des mois à l'avance. Vous ici, ce que vous voyez ici est mineur parmi toutes les choses qui ont eu lieu. Demandez à ceux qui y sont toujours, demandez-leur si une fois ce n'est pas arrivé exactement. Le Saint-Esprit nous parle de choses qui doivent arriver et concernant les gens, les tremblements de terre, n'est-ce pas vrai? Amen. Il y a des individus qui ont été, différentes personnes comme Marilyn Monroe longtemps avant sa mort. Ils disent qu'elle s'est suicidée. Non, elle ne s'est pas suicidée, elle est morte d'une crise cardiaque, absolument. Cet homme ou ce guerrier, la ligne Maginot en Allemagne, toutes ces choses par milliers s'accomplissant chaque fois à la lettre. Ça ne peut être rien d'autre que le Saint-Esprit. Voyez, il l'a promis. En 1933,
Il a parlé de sept événements qui arriveraient, et à l'heure qu'il est, toutes ces prophéties se sont accomplies, à l'exception de deux, parfaitement, exactement. Comment même serait élu le président Kennedy, c'est ici même dans mes livres prédit il y a 33 ans exactement. La construction de la ligne Maginot 11 ans avant sa construction, la venue de Hitler, le fascisme et le nazisme, tout ça se lierait dans le communisme, et le communisme détruirait le catholicisme. Et il le fera, oui, quel que soit le moyen. Et il a montré qu'il y aurait un conseil œcuménique et que toutes les églises s'uniraient et formeraient l'image appelée la marque de la bête. Tout cela est en route en ce moment même. Tout à fait vrai. Cela doit s'accomplir, parce que ça n'a jamais manqué de se produire. Quiconque le sait, quiconque prenez-les des quatre coins du monde, ça n'a jamais manqué une fois. Des mois et des années avant le temps d'accomplissement, ça arrive exactement comme prédit. C'est Dieu au milieu de vous, mon peuple. Dieu en nous, le Saint-Esprit. Remarquez, Jésus a dit que la semence royale serait identifiée par la même chose, ici dans Luc chapitre 17. Ô retourne, ô dispersé de tes dénominations vers les tiens. Chacun de nous peut croire en ce Dieu. Si vous croyez en Dieu, vous savez que Dieu guérit les malades. Il n'y a pas de doute. Quoi, si vous ne croyez pas cela? Vous savez, en ces jours-là, ils ont dit, Jéhovah, nous savons qu'il peut guérir, mais il ne peut pas sauver. De nos jours, il peut sauver, mais il ne peut pas guérir. Voyez, le même diable, la même chose. Il est à la fois le sauveur et le guérisseur. Il est Jéhovah Jiré et Jéhovah Rapha. Oh, retournez, rappelez-vous, il a promis que ces choses établies dans la position dont elles sont maintenant arriveraient. Il a dit que ça arriverait, ça doit arriver. Mes amis, je suis désolé, je vous ai gardé longtemps. Courbons nos têtes une minute, je terminerai cela peut-être demain soir, j'ai encore 6 pages de notes ici. Courbons nos têtes un moment, soyez respectueux, chacun de vous. Vous pourriez être en désaccord avec moi, vous en avez le droit. J'ai le droit d'exprimer ce que je pense, j'avais l'écriture. Maintenant, peu importe ce que je pourrais dire, si Dieu ne le confirme pas, alors l'Urim Toumim ne fonctionne pas et c'est refusé. Même si ça paraît bien et que ça paraît réel, l'Urim Toumim doit le montrer. La semence doit venir à la vie. Si elle ne le fait pas, c'est qu'elle n'en était pas une. Quant à la guérison, j'ai essayé de vous dire que je n'étais pas un guérisseur. Beaucoup se disent guérisseurs. Et puis, il y a beaucoup de critiques qui disent que certains sont des guérisseurs, et cela juste pour critiquer. Leur cœur n'est pas en unisson avec Dieu, voyez. On sait qu'un homme ne peut pas en guérir un autre. Dieu guérit la maladie. Quand Dieu vous rappellera, alors priez tant que vous voudrez. Eh bien, que l'hôpital vous donnerait une injection par jour, vous mourrez de toute façon. Si ce soir je me coupais une main, et que je serais ici avec une main coupée, il n'y a pas un médicament dans le monde qui pourrait la guérir. On ne possède pas un médicament qui guérit. Aucune médecine ne guérit. Tout docteur vous le dira. Il ne fait que vous désinfecter pendant que Dieu guérit. Le médicament ne referait pas les tissus si je me coupais. Oh, dites-vous, oui, frère Branham, il y a un onguent qui guérit ça. Très bien, je voudrais bien voir ça. Laissez-moi vous le démontrer. Si je me coupais la main et que je tombais mort, un docteur pourrait venir embaumer mon corps et me faire paraître naturel pendant 50 ans. Me recoudre la main, me prendre, me donner de la pénicilline chaque jour. Et dans 50 ans d'ici, cette coupure serait comme elle était quand je me suis coupé. Si un médicament était fait pour guérir une coupure, pourquoi ne la guérirait-il pas? Ce médicament guérira une coupure à la main, guérira une encoche sur le pupitre, guérira un accroc dans mon manteau. Si cela guérissait une coupure, cela guérirait une coupure de toutes sortes. Eh bien, dites-vous, les médicaments ont été faits pour les êtres humains. Alors pourquoi ne les guérissent-ils pas? Eh bien, dites-vous, la vie est sortie de vous. C'est donc qu'il y a quelque chose en dehors du médicament qui guérit. C'est la vie, assurément. Et la vie est Dieu. Bien sûr que oui. Cependant, quelques-uns sont des pécheurs, sont souillés par le péché. Mais cependant, vous êtes à l'image de Dieu. Et la vie que Dieu vous a donnée, vous savez cela? Non, c'est parce que Dieu est le guérisseur. La vie est le guérisseur. Vous le croyez, voyez. On en a tant vu. Là, acceptons-le tout simplement. Ne voulez-vous pas? Avant de le faire, je me demande combien ici sont convaincus avant. Ceux qui sont nouvellement convertis et qui ne sont jamais venus ici auparavant, croyez-vous qu'il est le Fils de Dieu? Et en ceci, le message de ce soir, la parole seulement, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, vous devez le croire. Et si vous voulez que je me rappelle de vous dans la prière, levez la main, voulez-vous? Oh, que Dieu vous bénisse! Oh là là, de 300 à 400 mains, que Dieu vous bénisse! La foi vient de ce qu'on entend de la parole. La raison pour laquelle je dis cela, la semence trouvera la faveur de Dieu. Je crois maintenant que plutôt que d'appeler une ligne ici, je vous demanderai de prier. Laissez-moi vous apporter premièrement une écriture. Ce que nous faisons doit être scripturaire. Cela doit être scripturaire. Dieu n'honorera rien d'autre. Dieu n'honorera pas un mensonge, vous le savez. Vous ne pourriez pas lui attribuer cela. Il n'honore pas les mensonges. Il n'honore que sa parole. Mais il a promis ceci. Ma parole ne retournera pas à moi avant d'avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et nous voyons la parole qui appartient à ce jour. Peu importe le scepticisme qui surgirait dans le camp, Dieu honorera sa parole quand il trouvera la foi qui l'honorera. Je veux que vous preniez cette écriture, je crois que c'est Hébreux chapitre 3, la Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur, en ce moment même, qui peut compatir à nos infirmités. Et pour ceux qui ont levé leurs mains, je veux, dès que le service sera terminé, je veux que vous montiez ici, que je prie pour vous et que vous acceptiez Christ comme votre sauveur. Dirigez-vous vers l'une de ces bonnes églises des environs, peu importe l'endroit, chez quelqu'un qui prêche l'Évangile, rendez-vous là et demandez à ce que vous soyez baptisés du baptême chrétien. Et de là, le pasteur vous dirigera. Il est un homme de Dieu. S'il est appelé à être un homme de Dieu, il vous conduira jusqu'au bout. Si j'étais de cette ville-ci, j'appartiendrais à l'une de ces églises-ci. J'irais vers ceux qui croient l'Évangile. Je serais là, certainement, je m'associerais à eux. Eh bien, c'est ce que vous avez besoin de faire. Maintenant, s'il est le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités, puisqu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, par conséquent, il aura à agir tout comme il l'a fait hier. Regardez ceci maintenant. Un jour, une petite femme a touché son vêtement. Il s'est retourné, sachant ce qui accablait cette femme, et lui a dit que sa foi l'avait sauvée. Et elle le sentit au-dedans d'elle. Elle n'a pas eu à le prouver. Vous ne prouvez pas les choses. Vous croyez en Dieu, voyez. Vous ne prouvez pas Dieu, pas du tout. Vous ne pouvez prouver pour sauver votre vie qu'il y a un Dieu en sortant dehors et disant « Laissez-moi le voir ». Voyez, vous devez croire en lui. Toute l'armure de Dieu est surnaturelle, l'amour, la joie, la foi, la longanimité, la patience, la douceur, voyez, tout est surnaturel. Nous regardons aux choses qui ne se voient pas de nos yeux naturels. Et Christ est ici ce soir, il l'a promis, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là, je suis. Le « je » à nouveau, il est ici, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Priez et dites, « Seigneur Jésus, je suis malade, et quoi que ce soit que vous ayez besoin, je suis dans le besoin, et j'ai besoin de toi, cher Dieu, de ta miséricorde à mon égard, pour que je sois guéri et que je recouvre la santé. Si maintenant j'ai suffisamment de foi, Seigneur, pour te toucher, je sais que frère Branham ne me connaît pas, je suis un étranger, et je sais qu'il ne me connaît pas. Maintenant, si cet homme m'a dit la vérité, ce que je crois, puisque cela vient directement de ta parole, je l'ai lu, je vois que ça semble tout à fait correct, maintenant, confirme-la. Je reconnais être une semence royale par Christ. Je reconnais être la semence royale qui croit en Jésus-Christ, la semence royale, et je crois faire partie de son épouse, l'Église pour laquelle il vient. Je suis malade et dans le besoin. S'il te plaît, Seigneur Jésus, laisse-moi toucher ton vêtement et confirme-le-moi en parlant par frère Branham, comme il a promis qu'il en serait, comme il en était du temps de Sodome. Permets-lui de me dire ce que je suis en train de penser, de demander en prière, ce que je veux, quels sont mes besoins, quelque chose à mon sujet. Faites cela, faites-le. Père Céleste, c'est maintenant entre tes mains. C'est tout ce que je peux faire, ou qu'un autre pourrait faire. Ne dire que ce que tu as dit ici, la vérité. Maintenant, confirme-la, Seigneur, comme étant la vérité. J'ai parlé de toi. Parle pour certifier que j'ai dit la vérité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous demande seulement de croire, d'avoir la foi, que personne ne se déplace. Restez assis avec révérence. Je veux que vous imaginiez que se tient devant vous ici quelque part Christ ressuscité des morts. Un jour, il a traversé les murs, a mangé un morceau de pain et a dit « Touchez-moi, je suis de chair et d'eau ». Puis il a disparu droit devant eux. Il a maintenant promis qu'il apparaîtrait dans les derniers jours dans la forme d'une chair humaine à nouveau, dans votre chair, comme il l'a fait du temps de Sodome. Dieu qui était Christ manifesté en chair est maintenant dans son Église, son épouse. Voyez, ils s'unissent. C'est un temps d'union. Les Églises s'unissent, les nations s'unissent, et l'épouse et Christ s'unissent. Voyez, c'est un temps d'union. Croyez maintenant simplement, n'essayez pas de vous agiter pour provoquer quelque chose, parce que vous n'obtiendrez rien. Dites humblement, Seigneur, je crois, que quelqu'un le dise. Combien ici devant moi particulièrement? Je connais ces hommes ici et ces autres ici. J'en connais quelques-uns qui sont assis là. Qu'en est-il d'ici devant moi? Consacrons-nous à ce petit groupe-ci. Combien n'ont jamais vu Christ se faire connaître comme cela? Laissez-moi voir vos mains, ceux qui n'ont jamais vu ça. Je crois que tous l'ont déjà vu. Très bien. Priez, soyez respectueux. Je ne sais pas s'il le fera. Je n'en sais rien. C'est son affaire. Cela vous permettrait-il de croire de tout votre être? Le Seigneur l'entend, il sait tout. Cet homme assis ici souffre d'une hernie. Croyez-vous que Dieu guérira cette hernie? Vous le croyez? Nous ne nous connaissons pas, vous et moi, je suppose. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Mais si c'est pour cela que vous priez, levez la main. Si c'est vrai, levez la main. Oui, vous. Croyez-vous que lorsque André eut dit à Simon de venir voir qu'ils avaient trouvé le Messie, et qu'une fois dans la présence du Seigneur Jésus, étant donné que vous êtes en contact avec quelque chose maintenant, votre prière, voyez, il lui a dit qui il était. Vous croyez que Dieu pourrait me dire qui vous êtes? Si vous le croyez, il peut le faire. Cela vous encouragerait-il à croire de tout votre cœur? Est-ce que ça serait de même pour tous les autres? Amen. L'homme a maintenant levé les mains, témoignant que tout ce qui lui a été dit, je ne sais pas, je devrais écouter la bande, voyez, tout ce qui a été dit était vrai, n'est-ce pas, monsieur? Amen. Très bien, tout était vrai. Monsieur Shepherd, croyez de tout votre cœur, si tu peux croire. Maintenant, c'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit, ton nom est Simon, fils de Jonas. Là, si vous croyez, c'est tout ce qui est nécessaire, voyez. Qu'est-ce que c'est? C'est sa promesse. Il a fait cette promesse, cela montre qu'il est ici. Pas seulement moi, il est en vous, il est dans son corps de croyant. Une petite dame qui pleure et qui prie, qui a sa tête penchée, elle souffre d'un cancer. Si vous ne craignez point et croyez, Dieu vous guérira si vous le croyez. Elle va manquer ça, c'est sûr. Madame Hood, croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ vous guérit et vous recevrez ce que vous avez demandé. Vous allez le croire de tout votre cœur? Très bien. Assise à côté de vous se trouve une dame qui souffre d'un trouble d'estomac, du cœur, des complications. Si vous croyez de tout votre cœur, vous recevrez votre guérison. Le croyez-vous de tout votre cœur? Vous le croyez. Très bien. Cet homme souffre d'hémorroïdes. Croyez-vous que Dieu peut guérir ses hémorroïdes et vous redonner la santé? Levez-vous. Que pensez-vous de ça, vous qui êtes assis à côté avec une hernie? Croyez-vous que Dieu peut guérir cette hernie et vous rendre la santé? La dame à côté de vous, là, souffre de maux de tête. Ce n'est plus là maintenant, n'est-ce pas? Voyez, votre foi l'a fait. C'est tout ce que vous avez à faire, de croire. Ici se trouve une dame souffrant du diabète. Vous croyez que Dieu peut vous guérir, madame, assise là, souffrant du diabète? Vous croyez que Dieu peut me dire qui vous êtes? Vous le croyez? Madame Robinson, c'est votre nom. Posez votre main sur lui, celui qui a une hernie. Peut-être que Dieu le guérira également, si vous le croyez. Le ferez-vous? Très bien, monsieur. La dame qui est assise à vos côtés, posez votre main sur elle, monsieur. Elle a une névrite. Croyez-vous que Dieu va guérir votre névrite? Oui. Recevez également votre guérison. Vous devez le croire. C'est une confirmation. Dieu a fait la promesse. Combien croient maintenant que Christ est ici? Vous le croyez? Là, tous ceux qui veulent en sa présence, qui veulent sa miséricorde, qui veulent la miséricorde pour leur âme, et qui veulent l'accepter, tandis que vous êtes dans sa présence, identifiés. Un individu pourrait se présenter ici, ayant des marques de clous dans ses mains, et des égratignures d'épines, et dire, « Je suis le Seigneur ». Tout bon hypocrite peut le faire. Mais la vie, Le corps du Seigneur Jésus est à la droite de la majesté. Quand il reviendra, le temps ne sera plus quand ce corps reviendra sur la terre, mais son esprit est ici. Sa vie donne l'évidence qu'il est ici. Voyez, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Et si vous voulez recevoir de lui sa miséricorde, voudrez-vous vous lever pour un mot de prière, partout dans la salle, où que vous soyez, vous lèveriez-vous? Que Dieu vous bénisse là-bas en arrière. Restez debout, mettez-vous sur vos pieds, c'est tout ce que je vous demande. Rien qu'une minute pour la prière, si vous vous levez pour lui, si vous avez honte de lui en ce moment, il aura honte de vous devant le Père. Je veux maintenant accepter Christ comme mon Sauveur. Je veux qu'il me remplisse de son esprit à l'instant. Je le veux. Restez debout pour un moment, pour la prière, si vous voulez bien. Debout, très bien. Je me sens la nécessité de le faire. C'est un appel à l'autel. Debout. Nous n'avons pas d'autel où nous réunir. Votre cœur est l'autel. Retirez simplement toute l'incrédulité et sachez qu'il est ici en ce moment. Levez-vous sur vos pieds, vous qui voulez accepter Christ à l'instant, dans cette présence divine que vous ressentez, qui se confirme maintenant. Courbons nos têtes. Seigneur Jésus, ils sont à toi. Tu as dit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et conformément à la science, ils ne pourraient même pas lever leurs mains. La loi de la gravitation dit que nos mains doivent pendre vers le bas. Mais il y a une vie en eux, et cette vie a été amenée auprès de la vie éternelle, Christ. Ils ont pris une décision dans leur cœur, que c'en est fini du monde. Et ils lèvent leurs mains et se tiennent sur leurs pieds, défiant la loi de la gravité, assurant qu'il y a une vie à l'intérieur. Aussi défions-nous la loi du monde et de l'incrédulité. Dans le nom de Jésus-Christ, ils sont à toi. Ils sont des offrandes d'amour de l'Évangile. Ils sont des mémoriaux du message ce soir. Ta grande présence avec nous. Mets leur nom dans le livre de vie de l'agneau, Seigneur. Nous prions que chacun d'eux y sera comme tes enfants, tes bien-aimés. Remplis leur cœur du Saint-Esprit de Dieu. Puisse leur vie être remplie de la puissance du Dieu Tout-Puissant, afin que l'humilité et l'amour et la douceur et la gentillesse coulent d'eux en abondance, et qu'un zèle de voir les autres sauvés soit en eux, eux qui étaient autrefois dans cette même condition. Accorde-le, Seigneur. La seule chose que l'on peut faire, Seigneur, c'est de croire, et ils se présentent comme un mémorial de leur foi, et maintenant, par ma foi et la leur réunie, nous les déposons sur ton autel par la foi, et ils sont le sacrifice qui est là, attendant que le Fils de Dieu sacrifié les accepte dans son royaume. Accorde-le, Seigneur, puisse-t-il t'appartenir dès cet instant, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, vous qui croyez en lui de tout votre cœur, ceux qui sont debout, levez la main et dites, je crois en lui, je l'accepte à l'instant comme mon Rédempteur, et je recherche le baptême du Saint-Esprit. Levez votre main. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir, et j'aimerais que vous vous trouviez une église après cela. Demain soir, nous aurons une rencontre pour le baptême du Saint-Esprit. Demain soir, ici même, à cette salle. Je sais qu'il y a beaucoup de fanatisme qu'ils appellent le baptême du Saint-Esprit, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réel Saint-Esprit. Il y a un réel et authentique Saint-Esprit de Dieu, malgré tout, et je crois qu'il sera avec nous ici demain soir. Combien ici dans cette salle sont convaincus que nous sommes à la fin des temps? Amen. Combien sont convaincus que ceci est la vérité, que la parole est censée être comme cela dans les derniers jours? Levez votre main. Amen. Combien d'entre vous sont des croyants? Bougez les mains. Amen. Très bien, Jésus a prononcé ces mots, ces signes suivront ceux qui croient, si vous êtes un croyant. Combien ont besoin de Christ dans leur corps? Levez les mains. Très bien, vous les croyants qui sont assis près d'eux, posez vos mains sur eux, et comme vous priez dans votre église, priez aussi de la même façon ici. Ne priez pas pour vous-même, priez pour eux, eux prient pour vous, et la Bible a dit, ils imposeront les mains aux malades, et ils recouvriront la santé. Priez comme vous le faites d'habitude et avec une promesse. Seigneur Jésus, ils sont à toi, reçois-les dans ton royaume et guéris chacun, Seigneur, et ces mouchoirs, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, accorde-le, Seigneur. Satan a perdu son emprise. Que la puissance du Dieu Tout-Puissant nous guérisse tous.